gentlemen. Guten Abend, bonsoir, good evening. Piquets, do you feel good? Comment ça va?
Bonsoir à toutes et à tous, vous êtes bien à l'écoute de Radio Canut. Comme tous les dimanches de 22h à 23h, c'est l'heure de la causerie, évidemment, vous vous en doutez, ou pas. Et bien ce soir, le grand retour de Bonsoir Clara la technique.
Bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir Clara.
Bonsoir Fabien.
Ouais, merci, c'est fait, voilà. Voilà. On est les trois réunis. Et ben,
et bonsoir Jean-Yves.
Bonsoir Fab. Bonsoir Clara. Enfin bon, bonsoir, on peut faire durer ça pendant une heure, ça risque d'être chiant
pour
vous.
Ça va être une super émission, que des bonsoirs.
Alors, évidemment, comme d'habitude, on va vous rappeler quand même comment nous joindre. Si vous voulez nous envoyer un mail, n'hésitez absolument pas, c'est lacausericanu@gmail.com, lacausericanu@gmail.com. Vous retrouvez évidemment tous les podcast de la causerie, les 401e précédentes sur le blog de la causerie, c'est à blogs au pluriel, donc blogs.radiocanu.org/la causerie, ou dans votre petit moteur de recherche, vous tapez la causerie Canu, et ben vous trouverez là où on est.
Partout dans l'univers.
À peu près. Et bien plus loin encore. D'ailleurs, je crois que la NASA a eu un signal venant de très très loin disant qu'ils écoutaient la causerie. C'est incroyable. Donc on remonte à des millions d'années-lumière. On était déjà là.
Ouais, ouais. Et parce que le signal, il terminait par. Ils ne s'en sont pas remis. Ouais,
c'est ça, Evil Common, tout ça, enfin, ils n'ont pas compris. Voilà, je crois qu'on a tout fait, j'ai tout dit, j'ai tout fait, ok. Eh bien, on peut... Non mais, je regardais mes notes quand même. Eh bien, je passe le micro à Fab, qui va nous emmener en Afghanistan ce soir.
Ouais, on va aller faire un tour en Afghanistan. Alors, bien sûr, pas pour y faire du tourisme, hein, même si j'adorerais justement pouvoir un jour annoncer qu'on puisse faire du tourisme en Afghanistan, mais ce n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Si vous avez suivi ces derniers temps, hein, Trump, avant Biden, avait annoncé avoir pris la décision de retirer toutes les troupes américaines d'Afghanistan. Et Joe Biden s'est empressé de faire la même chose et de suivre la même logique, vu que cette guerre en Afghanistan, hein, qui dure depuis quand même
20 ans,
hein, 2001, après les fameuses deux tours du 11 septembre, donc elle a plus vraiment la cote aux USA, et aujourd'hui très clairement, politiquement, elle est vue comme étant une sorte de verrue et où on envoie des gens à la mort. Donc du coup, Biden a décidé qu'au 31 août, il n'y aurait plus de troupes étrangères sur le sol afghan. Alors soyons clairs, hein, je ne suis pas du tout un pro-guerre, hein, ni un défenseur de l'impérialisme d'où qu'il vienne. Mais force est de constater qu'après avoir foutu un bordel monstre dans le pays, hein, pendant près de 20 ans, et encore avant, parce qu'il y avait eu d'autres guerres, d'autres tentatives d'invasion et tout, en y implantant une guerre et un contrôle militaire, se retirer en fait sans transition possible, parce que clairement c'est ce que Joe Biden fait aujourd'hui, c'est un peu laisser les populations complètes dans une mer de noir, parce que la seule chose qui permettait aux populations aujourd'hui d'avoir un semblant de paix, et je dis bien un semblant de paix, c'était la présence des troupes étrangères. Et il y en a qui ont bien compris, hein, que ce moment était leur, c'est les talibans qui reviennent en force, hein, il faut le dire clairement.
Ouais, et, ah, puis, Et oui. Depuis un petit moment déjà, ils reviennent.
Hein. Ouais, alors il faut dire justement qu'ils n'ont jamais été vraiment désarmés, hein, faut être très clair, qu'ils sont soutenus par certains régimes, comme l'Iran par exemple, pour faire une guerre déportée aux Américains, c'était tellement pratique, et qu'ils restent des fanatiques sanguinaires, hein, faudrait pas l'oublier, souhaitant imposer leur vision d'une terre d'islam, soit une charia stricte et moyenâgeuse. C'est leur vision à eux, hein, très clairement. D'ailleurs, l'allié d'hier, hein, l'Iran, attend des garanties de la part des talibans aujourd'hui pour qu'ils ne laissent pas sortir des réfugiés sur leur sol. Hein, ah oui. Voilà. Alors oui, hein, l'Iran, il ne demande pas que les talibans respectent les populations. Il demande juste que les réfugiés ne viennent pas jusqu'en Iran. Il faut être très clair, hein, dans le dialogue qu'il y a eu entre les deux, il n'y a jamais été évoqué l'idée de faire en sorte qu'ils aillent bien, les réfugiés. Il y a juste, il ne faut pas qu'ils passent.
Bah, voilà. Oui, en même temps, venant d'une théocratie iranienne... Finalement, ils ont sûrement bien plus de liens avec les talibans dans l'idéologie politique qu'ils n'en ont pour les réfugiés et autres civils qui prendront tout dans la gueule.
Ça, c'est clair. Alors, si d'ores et déjà, les talibans tiennent 50% du pays, alors il faut faire attention avec ces chiffres parce qu'en réalité, ils ont pu avancer rapidement dans les zones les moins peuplées. Hein, c'est comme toujours. Leur avancée aujourd'hui, qui a été certes rapide, elle semble ralentir ces derniers temps. Alors, si l'appui aérien annoncé comme maintenu par les USA, qui devait au départ pas le maintenir, puis qui finalement le maintiennent, ça a joué un rôle. Hein. On va pas déconner. Oui, finalement, Biden, il a décidé de ne pas lâcher totalement l'armée officielle afghane, qui n'a pas d'aviation. Ouais. Donc forcément, c'est un peu problématique. Alors que les talibans sont appuyés par une aviation non officielle. Voilà, donc a priori, il y a plein de gens qui disent... des avions iraniens, hein, voilà. Donc c'est aussi, et presque surtout, en fait, la résistance populaire et des populations qui a freiné l'avancée des talibans. Alors là où ils avaient pu être vus comme des libérateurs dans le passé, hein, notamment face à l'URSS et à d'autres qui ont essayé d'envahir l'Afghanistan, les populations qui ont subi le joug des talibans ne sont pas prêtes de revivre cette expérience, très clairement. Et elles s'organisent en conséquence. C'est ça qui est intéressant à voir. Face à la déroute des forces gouvernementales, des milliers d'Afghans, mais aussi d'Afghanes, ont décidé de prendre les armes et de combattre directement les talibans. Voilà. Et pas à la mode à la légère. Hein. Ce n'est pas juste un affichage. Hein. Ce sont des véritables colonnes, comme on dit, hein, qui se sont mis en place. Et des groupes de défense de villes et de villages. Et ce sont des groupes armés, et pas un peu. C'est vraiment des groupes armés. Par exemple, hein, dans le nord de Kaboul, une milice d'autodéfense se met en place depuis quelques semaines, avec comme principale arme la fameuse Kalachnikov. Oui, parce que c'est l'outil du pauvre, comme on disait à une époque, mais surtout qu'elle est très répandue, elle ne coûte pas cher et elle ne s'enraye pas. Ce groupe voit arriver chaque jour de nouvelles recrues, hein, très clairement. Et alors attention, hein, je dis bien ça, c'est que ce n'est pas des gens qu'on force à rentrer dedans, c'est des gens qui viennent vers ces milices pour prendre les armes. Hein. Dans Kandahar, la seconde ville du pays, les paysans venus se réfugier ont décidé de monter des milices pour reprendre leurs terres et récupérer leurs maisons, tout simplement, face aux talibans qui les ont chassés et qui souvent ont détruit ou occupé leur lieu d'habitation. Dans le même temps, hein, des femmes et des jeunes filles prennent des cours d'autodéfense et de taekwondo pour résister au cas où les talibans entrent dans la ville. Comme l'affirmait sur une radio internationale la jeune Donia, ma mère a vécu sous leur joug, elle a été frappée, violée, torturée, grillagée. Je préfère me battre et mourir que de subir cela. Alors je précise juste que Donia a 14 ans, hein, pour quand même on se rende compte. Donc il y a aussi Yacine, hein, qui a autour de 40 ans, qui est à la tête d'un groupe d'autodéfense de Kaboul, et il affirme sur RFI, est-ce que vous comprenez, c'est notre promesse, nous serons prêts dès que le gouvernement et les forces de sécurité nous le demanderont à nous battre à leur côté et nous ne laisserons pas tomber. Nous sommes prêts à nous défendre nous-mêmes, à défendre notre honneur, notre terre, notre nation. Alors certes, j'entends déjà des gens bondir en disant que de nationalisme dans cette phrase. Juste souvenez-vous quand même de la situation, on parle d'une guerre, voilà, et que oui, par moment, dans les guerres, les gens se raccrochent à des idées comme la terre et la nation, parce que il faut bien se raccrocher à quelque chose quand on part au combat.
Oui, et puis ça laisse aussi sous-entendre que les talibans, ce n'est pas l'Afghanistan, ou l'Afghanistan n'est pas taliban, en fait. Et ça, c'est une réalité, c'est-à-dire qu'un pays avec ses frontières, finalement, le pouvoir politique qu'il prend en charge, Est-ce qu'il est représentatif de ce que la population, vu les techniques des talibans, je suis pas persuadé que la majorité de la population soit derrière elle aujourd'hui.
Bah on est clairement là-dessus. Oui. D'où en fait ces notions-là qui ressortent. Alors les recrues, faut savoir, donc dans le groupe de Yacine, elles ont entre 16 et 60 ans. Donc c'est quand même assez étonnant. Et alors il le dit lui-même dans l'interview, je l'ai pas repris mot pour mot, mais il dit qu'il refuse de descendre en dessous de 16 ans. Oui. Voilà. Et déjà 16 ans, ça leur a posé des questions. Et ils sont tous très déterminés, faut être très clair. Ils n'ont pas oublié en fait, et ils savent qu'ils peuvent résister, comme en fait ils l'ont déjà fait dans le passé. Alors Yacine, il ajoute, nous voulons activer ces postes de contrôle qui avaient été mis en place pendant la guerre civile et pendant l'époque de l'invasion russe. Vous voyez, ils ont un petit peu de mémoire quand même. Nous allons déployer des personnes à tous les postes, les personnes qui sont bien formées bien sûr. Et on les entraînera toutes pour ne pas avoir de problème pendant les combats. Parce que très clairement, l'idée, c'est pas d'envoyer des gens pas formés affronter. Oui. Voilà. On vous montrera comment vous servir des armes, on vous expliquera tout. Ça, c'est ce qu'il dit pour les recrues. Alors, on peut le voir, ils sont prêts et déterminés. Yacine raconte d'ailleurs qu'il ne supporterait pas de voir revenir les fondamentalistes religieux au pouvoir, comme entre 1996 et 2001. Voilà. Alors, ils ont décidé finalement de tous se prendre en main, de créer leur propre groupe de défense et de ne pas attendre. Yacine confie dans la même interview à RFI, tout le monde peut combattre contre eux, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, qu'il s'agisse d'une femme ou d'un homme. Il faut juste que ces personnes soient prêtes à défendre leur pays contre ces étrangers. Alors je fais une petite parenthèse, pour Yacine, les talibans sont des agents de l'Iran. Voilà, eux ils disent, comme ils sont financés par l'Iran, ce sont donc des étrangers. Voilà, pour comprendre la phrase, je ferme la parenthèse. On les entraînera, donc là il parle des gens qui les rejoindraient, on leur donnera les armes et les munitions, nous leur donnerons des armes légales, mais pas des armes illégales, donc ça ils y tiennent, donc des armes enregistrées très clairement. Toutes ces armes sont enregistrées auprès des forces de sécurité, voilà. Donc on voit qu'il y a quand même une idée, une logique d'être dans un mode de défense et de rester quand même dans un modèle qui pour eux leur paraît le plus... logique, c'est-à-dire aller vers une démocratie représentative.
Oui, et officielle, voilà. et finalement, pas être dans une guérilla.
Je n'émettrai aucun avis, je ne suis pas dans leur situation, et très honnêtement, je comprends aussi qu'il y a un besoin de légalité dans le sens où il y a l'envie d'être armé correctement et de ne pas aller à la guerre avec rien.
Voilà. Ouais, et puis surtout, je m'avance un peu parce que j'ai pas vérifié, mais je crois que l'Afghanistan est un pays où le rapport aux armes, en fait, est un truc assez habituel,
oui,
en fait.
Tout à fait.
Et ce qui fait que je pense qu'il y a aussi cette peur-là, c'est finalement que ça parte pas en vrille dans tous les sens, et qu'on se dise bien, en fait, on essaie de s'organiser finalement un peu en armée, sans être forcément de l'armée officielle, etc., mais en se donnant un cadre, finalement, à cette manière de contrer les talibans, quoi.
Ouais, et en plus, je crois qu'ils craignent la notion de chef de guerre, parce que c'est quand même souvent ce qui prend le pouvoir.
Ah oui, oui.
Et donc, eux, ils veulent pas avoir un chef de guerre, c'est pas l'idée derrière, quoi, voilà. L'heure, en fait, pour eux, est à la résistance, finalement, face à l'obscurantisme. Et cette guerre qui se profile ne peut que nous inquiéter. Enfin, je veux dire, on n'est jamais content qu'une guerre se déclare. Même si on peut en comprendre la légitimité, malgré tout, c'est ça qui est problématique. C'est que même si je, personnellement, je déteste la guerre au plus haut point, je me disais, en écoutant justement ces témoignages, qu'est-ce que je ferais si j'avais en face de moi des talibans qui arrivent et qui veulent m'imposer une vision archaïque de la société.
Mais ça rejoint un peu le propos que j'avais la semaine dernière sur l'Iran, c'est-à-dire qu'on peut se dire, à propos de Massi Ahmadinejad, en fait, qui soutenait le fait que le gouvernement Trump ait tué un colonel iranien, finalement, oui, encore une fois, c'est très bien et facile, finalement, de le dire, nous, dans nos petits locaux de Radio Rebelle, mais finalement, on a le droit d'émettre, etc. Là, on est dans du réel et que, en fait, face à eux, ils ont des gens qui veulent réinstaurer un pouvoir religieux, sanguinaire.
Donc, et politique.
Évidemment. Mais ce qui fait que, ouais, en fait, en face de toi, ils n'ont pas des démocrates qui vont poser des questions par référendum ou je ne sais pas quoi, en fait. Donc, il te reste quoi, en fait, face à des gens qui sont capables... Parce que, je veux dire, les talibans, il faut quand même se souvenir de ce qu'ils ont fait. Enfin, je veux dire, ils sont capables de tuer, ils sont capables de lapider, ils sont capables d'absolument tout.
On estime aujourd'hui que les talibans, entre 1996 et 2001, c'est à peu près 900 000 morts dans des exécutions sommaires. C'est juste... inimaginable.
Mais oui.
C'est-à-dire, c'est plus que la ville de Lyon. pour ceux que la ville intramuros, ouais, intramuros de Lyon. Voilà, c'est juste, il faut.
Oui, non, mais c'est ça la réalité.
On est
en
quand
fait.
Même face à des fanatiques, des fous. Voilà, et encore une fois, je ne dis pas que la guerre c'est bien, je dis juste que quand je me mets, j'essaie de me projeter à la place de ces personnes, je me dis. Et très clairement, hein, ils le disent tous, c'est le désespoir, hein, finalement, qui les pousse à résister aux talibans. C'est pas l'espoir de quelque chose de meilleur. Ils disent de toute façon, l'Afghanistan est foutu pour 20 ans parce qu'ils disent, vu ce qui s'est passé, c'est une terre qui a été massacrée et c'est une réalité. Par contre, ils veulent surtout pas voir revenir ces fanatiques et ces fous. Voilà. Et notamment les femmes. Moi, je vous invite vraiment à regarder. Il y a plusieurs reportages qui tournent, qui ont été faits sur place. Regardez ces femmes, ce qu'elles ont à dire et leur façon, la façon dont elles ont d'exprimer leur envie de se battre. Je vous renvoie à un reportage qui est passé sur Arte Reportage d'ailleurs, sur des femmes qui apprennent le taekwondo, justement, parce qu'elles disent, bah, comme ça au moins, s'il s'approche trop près, je pourrais au moins essayer de me débarrasser de lui. Alors, ça paraît très froid comme ça, mais il faut imaginer toute la logique qui est derrière, et voilà. Alors, il y a une autre face à cette crise, hein, ça va être la crise des réfugiés en fait, hein, on va être très clair, hein, parce que tout le monde ne peut pas ou ne veut pas prendre les armes et là encore une fois, personne ne peut blâmer les gens pour ça. J'ai pas du tout de jugement moral là-dessus, je trouve ça assez odieux. Du coup, on sait qu'un nombre énorme d'Afghans et d'Afghanes vont prendre aujourd'hui la route de l'exil pour échapper aux ordures qui veulent les asservir, hein, faut être très clair. Donc l'ONU estime qu'il y a déjà plus de 2,5 millions d'Afghans qui sont réfugiés hors du pays des suites des différentes guerres qui frappent le pays depuis les années 50. Donc c'est assez énorme, hein, quand même, hein. Ça en fait une des plus grosses diasporas au monde, hein. Enfin, c'est-à-dire des personnes qui sont à l'extérieur du pays, de leur pays d'origine. Selon le commissariat aux réfugiés, cette nouvelle offensive talibane risque d'entraîner l'exil de 2 à 4 millions de personnes de plus. C'est juste des chiffres qu'il faut avoir en tête, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je rappelle, je fais ça exprès, hein, 2 millions de personnes, c'est la métropole du Grand Lyon. Hein, c'est, voilà. 4 millions de personnes, c'est la métropole du Grand Lyon plus le Grand Marseille. Voilà. C'est ça, en fait. Il faut avoir ces chiffres en tête, parce que quand on parle comme ça un petit peu dans l'absolu, on a du mal à voir ce que ça représente. Quand on le schématise, d'un seul coup, on se dit « Ah ouais, si demain Lyon prenait la route de l'exil, tous les Lyonnais et Lyonnaises prenaient la route de l'exil, bah c'est ce qui va se passer en fait. » Voilà. Donc l'Afghanistan est un pays qui, je rappelle, qui est peuplé de 31 millions de personnes. Hein. C'est pas un petit pays l'Afghanistan, c'est un pays peuplé quand même. Plutôt jeune, hein. Il y a 6 enfants par famille, donc forcément c'est une population plutôt jeune. Et où 69% des filles et 55% des garçons sont illettrés. Donc c'est un pays en fait où on comprend mieux comment l'obscurantisme a pu prospérer et s'implanter. C'est-à-dire qu'il y a aussi un problème là-bas d'accès à l'éducation, mais qui n'est pas du fait des Afghans eux-mêmes, qui est du fait que bah, y a des guerres quand même depuis les années 50. Donc quand il y a des guerres, l'éducation c'est malheureusement pas le premier poste, vous voyez, donc voilà. Et ça c'est le vrai problème.
Ouais, et puis sans oublier aussi que justement les talibans, même si là ils étaient plus au pouvoir, etc.,
ils ont détruit des écoles,
ils tenaient des régions, etc., et ils ont détruit absolument des écoles parce que bah, pour eux c'est un péché, c'est interdit que les filles aient accès à l'école, vous imaginez bien.
Ils ont brûlé des bibliothèques aussi.
C'est des fascistes quoi.
Oui, clairement. Sauf que du coup, ce flux de réfugiés est aujourd'hui une problématique que l'on doit appréhender. Parce qu'encore une fois, on est au courant. Enfin, les chiffres, là, je les ai pas. Voilà, ils sont faciles à trouver. Hein, voilà. L'Iran menace donc de fermer militairement ses frontières avec l'Afghanistan, hein, parce qu'ils estiment que, d'après eux, ils ont déjà 2 millions d'Afghans sur leur sol. Donc ils disent, nous, ça suffit, on va mettre l'armée et on empêchera les gens de sortir. Dans le même temps, la Turquie, point de passage vers l'Europe, hein, donc entre l'Iran, il faut voir un petit peu la géographie, donc c'est l'Iran. Et il y a à l'Afghanistan au nord et la Turquie à l'ouest. Donc voilà. Et donc la Turquie, en fait, point de passage donc vers l'Europe, est en train de dresser un mur long de 150 km et haut de 3 mètres pour fermer sa frontière avec l'Iran. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de faire une sorte de nouveau mur de Berlin. Vous voyez, pour une image, parce que c'était ça, hein, le mur de Berlin, 3 mètres de haut.
Oui, voilà. Oui, c'est le même mur que Trump a pu construire entre les États-Unis et le Mexique.
Ouais, mais j'essaye de prendre des images. Je suis d'accord avec toi, c'est exactement ça, quoi. Et donc, en fait, bah, l'idée, c'est d'éviter le passage des réfugiés vers l'Europe, hein, très clairement. Alors voilà, hein, la politique des murs entre les peuples est toujours là, on le voit. Et donc, avec un cynisme énorme, hein, ces deux pays vont enfermer les gens. Alors, il faut savoir qu'en Afghanistan, on pouvait sortir que par là, hein, parce que de l'autre côté, c'est les montagnes. Et que vous passez pas, elles font 5000 mètres de haut, hein. Donc à moins que vous soyez un alpiniste de très haute, vous allez avoir du mal à passer. Donc en fait, ces deux pays vont finalement enfermer les gens, hein, qui fuient dans leur pays prison avec les talibans. Alors, je sais que tu voulais en parler, mais il y a aussi la Chine qui s'est mêlée un petit peu à tout ça, qui a rencontré les talibans. Et en gros, ils ont passé une sorte d'accord tacite en disant « Alors nous aussi, on a un petit peu des frontières avec vous, tout ça, tout ça. On aimerait bien que vous ne veniez pas foutre le bordel chez les Ouïghours, parce que bon, on aimerait pouvoir les opprimer tranquillement. Donc, on tape un deal. Moi, je te fournis des armes, de la nourriture et des autoroutes. Et toi, tu viens pas faire chier. » Voilà.
Ce qui est assez magique venant du pouvoir chinois, qui, n'oublions pas, Hong Kong, etc., sont réduits au silence alors qu'ils y avaient le droit, ils avaient le droit à une forme d'autonomie. Et aujourd'hui, finalement, la même Chine va s'adresser à un pouvoir complètement. Il double pouvoir légal, on va dire, afghan, qui est Amir Karzai, je crois encore, etc.
Je sais plus.
Non, c'est pas si c'est Amir Karzai.
Non, c'est un autre, mais j'ai pas de son nom.
Ouais. Mais ce qui fait que, en fait, la Chine va rencontrer donc un pouvoir qui double celui en place, quoi. C'est comme si pour s'adresser finalement aux Chinois ou pas, d'ailleurs, on irait à Hong Kong et on s'adresserait ou à Taïwan. Je pense que le Parti communiste chinois serait ravi. C'est vraiment.
C'est un peu comme si Ford était allé parler à Adolf Hitler avant la Seconde Guerre mondiale. Ah oui, c'est ça. Ouais. j'aime bien faire des exemples. Je rappelle que pour la Turquie, il serait quand même temps de se souvenir que cela se fait avec la complicité de l'Europe. C'est pas la Turquie toute seule qui fait les choses. Et que, qui a délégué la gestion des flux humains. Oui, ça s'appelle comme ça, les flux humains. Voilà, c'est juste horrible. Et ce, à coup de milliards versés au régime de l'autocrate Erdogan. Donc, on ne va pas non plus se mentir. Parce que oui, nous habitons des pays riches. Nous avons donc des responsabilités dans tout ça. En ne luttant pas pour l'accueil des personnes en fuite, qui ont besoin de se poser pour souffler. Parce que souvent, ce n'est pas des gens qui ont envie de rester. C'est juste des gens qui ont besoin de respirer, souffler, avoir un moment dans leur vie où on sort de la guerre pour pouvoir remettre sa vie à plat. Par la peur collective d'en envahir. On entend de plus en plus ce terme-là et on commence à l'entendre y compris à gauche, des gens qui disent « Ouais, mais on peut quand même pas accueillir tout le monde », mais sauf qu'en ce moment, on n'accueille personne, donc ça tombe plutôt. Voilà. Par notre accompagnement majoritaire d'un repli sur nous-mêmes, et là, je parle bien d'une majorité dans les pays riches, nous cautionnons finalement, globalement, les politiques des dictateurs et des théocrates. C'est ça qu'il faut se rendre compte. Bien entendu, certaines personnes luttent pour que nous devenions une terre d'accueil. Et personnellement, j'en suis, parce que je suis moi totalement pour l'ouverture des frontières. J'ai aucun problème à ce qu'on accueille les gens qui ont besoin d'être accueillis, mais vraiment aucun. Mais on est trop peu. Il faut être conscient de ça. On est vraiment trop peu à le faire. Demain, c'est donc entre 2 et 4 millions d'Afghanes et d'Afghans qui vont avoir besoin de notre aide. Mais de notre aide concrètement, c'est-à-dire juste avoir un endroit pour se poser. C'est ça qu'ils réclament. Ils ne le réclament même pas d'ailleurs. C'est ça qu'ils espèrent, simplement. Le chiffre, il est connu. Il est donc possible aujourd'hui d'anticiper et de prévoir à ces personnes une possibilité de fuite digne sans engraisser les passeurs et en assurant leur sécurité. On peut le faire. On peut collectivement, dès aujourd'hui, mettre en place, notamment avec le Haut Commissariat aux réfugiés, un plan de sauvegarde de ces populations et de les faire rentrer tranquillement sur le sol, de ne pas les enfermer dans des camps, mais de leur trouver des endroits où loger. On peut faire tout ça. On a le temps d'anticiper cette période-là. Voilà.
Ouais, c'est ça, parce que si c'est pour faire encore un énième camp,
non, c'est pas
on le voit dans plein de pays où les camps, finalement, qui sont censés finalement être un peu éphémère entre guillemets, deviennent des trucs qui tiennent sur le long terme et où les gens sont finalement délaissés et qu'à l'intérieur même de ces camps c'est la merde totale. Enfin, c'est oui, effectivement, faut viser un peu mieux. Et
D'ailleurs, je vais vous parler des passeurs vite fait. Vous savez, ces petits mafieux sans âme, violents, violeurs souvent, qui n'ont souvent pas une seule once d'humanité et qui s'enrichissent sur le dos des réfugiés qui fuient. Faut arrêter de voir les passeurs comme des héros. Ce sont des salauds, la plupart, faut vraiment. Ils sont en fait le rouage central d'un vaste marché humain et qui engraisse aujourd'hui, on le sait, notamment les mafias qui se font un pognon de dingue sur le dos. Alors, c'est un petit peu, je vais faire un parallèle foireux, mais volontairement. C'est un peu comme quand on dit on veut lutter contre la drogue et puis qu'on légalise pas. Et qu'on continue en fait à engraisser les mafias. Ben là, on dit il faut lutter contre l'arrivée des gens, mais en fait, on engraisse des gens pour voilà. Il faut pas lutter contre l'arrivée des gens, faut pas lutter contre les voilà. Il faut accompagner, il faut amener de l'humanité, il faut être présent. Voilà. Je rappellerai juste, même si tous ces Afghans venaient en Europe, on est 500 millions. On parle de 2-3 millions de personnes qui vont venir temporairement. Ils ont pas envie de rester. Ils le disent eux-mêmes. C'est pas leur but. Donc voilà, ça va, ça passe. On peut y arriver. on va pas être envahi. Ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Et en plus, vous allez peut-être pouvoir même découvrir des cultures que vous ne connaissez pas. Oui, ça peut ça. Être hyper sympa. Donc voilà, moi, cette chronique, elle n'est pas très réjouissante, hein, j'en ai conscience. C'est chiant pendant les vacances, pardon, hein, de devoir se souvenir qu'ailleurs dans le monde, les gens meurent et que les guerres, ça existe toujours. Voilà, je suis désolé, mais c'est comme ça. Elles prennent pas de vacances, les guerres. Saloperie. Sauf que le temps presse, en fait. Hein, il faut dès maintenant interpeller ceux qui ont les clés et préparer les solidarités qui seront nécessaires dans les mois et années à venir. Et que je vais le dire ici, que ces solidarités soient légales ou non, je m'en fous. Mais il va falloir à un moment donné les préparer et commencer à réfléchir à comment on va faire pour accueillir ces personnes. Voilà, c'est juste ça. Alors, pardon, mais moi, hein, quand des humains souffrent, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. Voilà. Et quand j'en suis à citer du Jean-Jacques Goldman, qui à l'époque était chanté par Michel Drucker, c'est que l'urgence, elle est vraiment là.
Effectivement, c'est urgent. Aidez-les.
Non, mais voilà. Ben, on met un peu de musique ?
Ben, allons-y.
Ben, c'est parti.
Doit-on s'y résigner, la prendre à bras le corps, croire en ses feux follets ou bien la vivre à mort? Partout sur notre terre, elle guette nos faux pas, elle se goinfre de guerre et de nos chemins de croix. Et nos vieux ronds de cuir, ivres de leur bagou, se laissent aller au pire, hurlant avec les
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 sur radiocanu.org. Et ouais, vive les printemps sans frontières, bon sang. Et donc du coup, c'était Epsilon, le groupe, alors pas du tout la revue que j'ai présentée la semaine dernière, mais là un groupe de musique qui s'appelle Epsilon, et avec le titre Requiem. Voilà, moi je les aime beaucoup, et en plus il y a de la bombarde, moi j'adore
oui,
ça.
Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est bretonnant.
Voilà, ben, ils sont un peu bretons.
Ah bah, ça tombe bien, c'est dingue ça.
Ceci explique sans doute cela.
C'est
et donc, pour continuer sur la thématique des réfugiés, Jean-Yves, tu voulais nous présenter un livre qui justement bah, parle des réfugiés.
C'est ça, effectivement, pour rester dans le thème des gens qui partent de chez eux pour fuir la guerre, la misère, la persécution, je vous propose ce soir une bande dessinée. Elle est l'œuvre de Xavier Bétaucourt au scénario et de Virginie Vidal au dessin. C'est édité chez Steinkiss, pardon. Oui, Steinkiss. Et son titre est « C'est doux, en quête d'asile ». Évidemment, avant de vous parler de la BD, comme à mon habitude, je vais vous parler des créateurs, pardon. Donc Xavier Bétaucourt, il sort son premier album Noir Metal chez Delcourt en 2006. Il publiera de nombreuses autres BD, dont Trop vieux pour toi en 2016 chez La Boîte à Bulles, Le Grand A en 2016. Ça, c'est sur l'implantation d'une grande surface ou les premières grandes surfaces qu'il y a eu dans le Nord, je crois, si je ne me trompe pas. Quelques jours à vivre, ça, c'est suivant des personnes qui bossent en service de fin de vie. Ça c'est chez Delcourt en 2016 et il y a aussi en 2017 chez Futuropolis 1, 2, 3, 4 Ramones. Voilà. C'est souvent entre historique et documentaire, vraiment. Et ensuite, Virginie Vidal, donc, bah, après des études de graphisme et de BD qu'elle a fait en France, en Allemagne et en Belgique, évidemment, elle s'établit à Lille, où elle travaille au sein de l'atelier La Malterie, et elle a publié notamment Des Astres de l'Amour, chez La Boîte à Bulles, pareil, en 2012, Le Manoir Hanté, chez Deux Coques d'Or, en 2015, et La Pyramide Mystérieuse, aussi chez Deux Coques d'Or, en 2017, et pas mal d'autres petites choses, beaucoup dans le domaine de la littérature jeunesse, en fait. Donc voilà, donc... J'en viens quand même à la BD, n'est-ce pas ? Donc, C'est doux, enquête d'asile. Et ben, en fait, elle s'ouvre sur la préfecture du Nord en juin 2018. On y retrouve C'est doux et son avocate qui lui conseille de pas être trop visible, hein, au risque de se faire arrêter potentiellement, vu que sa demande est expirée. Et même si la préfecture a dit qu'elle n'arrêterait personne ce jour-là, son avocate reste méfiante et
on comprend pourquoi.
Oui. Et si pour ses doux ça tourne bien, par ces quelques premières pages, en fait, on goûte déjà finalement au fait d'être suspendu à une décision administrative qui peut vous renvoyer d'où vous venez, en fait. Et c'est déjà chaud, c'est palpable, en fait. Justement ce stress et cette peur et tout ça quoi. Et cette froideur aussi, hein, parce qu'on est dans de l'administratif, n'est-ce pas? Donc après ce premier épisode, hein, on fait un saut en arrière en 2015, lors du départ de Sédou de la ville de Conakry en Guinée. Il part pour Bamako, au Mali, en raison de menaces sur sa personne liées à ses activités militantes, comme par exemple dénoncer les exactions du pouvoir, inciter les jeunes à voter, organiser des manifs, etc. Et il aura même fait de la manif... je m'en mêle vraiment les pinceaux. Il aura même fait de la prison pour ces raisons. Sédou est Peul, et le pouvoir politique de Guinée désigne les Peuls comme les causes de tous les problèmes. Les Peuls sont pas mal présents en fait dans l'économie des pays, et les non-Peuls font tout pour qu'ils n'accèdent jamais à un quelconque pouvoir politique. Donc voilà, une bonne guerre.
Ça nous rappelle les éternelles guerres ethniques.
C'est ça.
Mais qu'on avait aussi en Europe. Hein. C'est comme quand tel groupe ne peut pas avoir. C'est la faute de tel groupe. On connaît.
C'est toujours la même logique. Hein, et où qu'on soit, justement.
Ah bah oui,
c'est
oui.
Ça qui est.
C'est ce qui est un peu déprimant et en même temps rassurant. C'est que l'humanité est la même partout.
Ah oui, c'est ça. C'est ce que j'allais dire, en fait. Donc il part pour le Mali, hein, pensant qu'il pourra rentrer quand ça se calmera en Guinée. Sauf que là-bas aussi, en fait, être Peul est mal vu, en tout cas dans la région où il est, enfin dans la ville où il est, etc. Il a le droit à des regards et à des choses qui font qu'il se dit bien que ça pue pour lui, et il décide donc de partir encore. Et en fait, tout le long de la BD, en fait, on fera des sauts comme ça entre présent et passé, entre la galère pour obtenir sa demande d'asile en France et la route qu'il effectuera au départ du Mali pour arriver en France, en passant par le Niger, la Libye, l'Italie, la France, la Belgique, le Luxembourg, pour terminer sa route, comme je vous le disais, à Lille, en janvier 2017. Alors évidemment, hein, la route jusqu'en Italie nous relatera l'enfer de la Libye, le fait d'être à la merci des passeurs, on t'en parlait tout à l'heure, mais effectivement, ce sont des raclures, ne l'oublions jamais. On rencontrera aussi différentes personnes, là aussi c'est hyper intéressant, c'est des brèves rencontres des fois, mais ça parle en fait. Et justement, avec des parcours, des personnes différentes, avec des parcours de dingue, je pense notamment à ces femmes parties du Nigeria pour travailler en Libye, mais qui en fait seront prostituées de force, avec aucune possibilité d'échapper à cet enfer, évidemment. Ou encore tous ces réfugiés exploités au travail, sans salaire évidemment aussi, hein. On peut donc dire en fait réduit à l'esclavage, hein, il n'y a pas vraiment d'autre mot, et est aussi mis en image en fait les traversées avortées pour des raisons de mère déchaînée qui se soldent par des dizaines de morts et de mortes. Enfin, c'est et les mises en image, enfin, je trouve que c'est assez réussi en fait. Pardon, tu voulais dire un truc?
Non, je vais juste te dire, parce que tu parlais des femmes nigérianes qui sont prostituées de force. Alors à Lyon, on est bien au courant, hein, parce oui. qu'il y avait un énorme oui. Trafic autour d'êtres humains, voilà, autour de Lyon, et c'était des femmes nigérianes, oui. voilà. Et ce que je voulais juste rappeler, c'est que la personne qui a fait ça a osé dire qu'il leur avait offert une vie meilleure que ce qu'elles auraient connue. Oui. Voilà.
C'était pas dans cette histoire où c'était un pasteur ou un truc comme ça
si, qui était. Ouais. Ils sont jamais bien loin.
Voilà. Bref, et si l'arrivée en fait en Europe est plus calme, évidemment, moins violente, l'illégalité en fait continue afin de ne pas être parqué dans un camp pendant des années. Il faut continuer la route, il faut continuer de se battre, il faut continuer d'espérer parce que finalement, c'est tout ce qui reste. Et pour améliorer sa situation, quand on n'a rien, et ben heureusement, il y a des associations d'aide, d'entraide, des avocats qui travaillent avec des demandeurs d'asile. Mais là encore, hein, attention, je suis pas en train de faire un tableau binaire gentil-méchant. Il y a évidemment là encore des choses qui sont imparfaites, il y a des choses qui sont absolument dégueulasses. Il a le droit. Alors là, je parle de Cédou, mais on peut bien l'élargir à bien plus large que lui, à quasi toutes les personnes finalement. Elles sont aussi victimes de racisme. Il manque aussi d'hébergement d'urgence. Il y a l'incertitude quotidienne en fait. Et il y a aussi toute l'instrumentalisation que font les politicards du sort des réfugiés. Comme si les personnes qui fuient la haine en fait, comme Cédou, d'autres qui fuient la guerre, la pauvreté, et qui abandonnent donc leur vie en fait, hein, en tout cas celle qu'ils avaient construite jusque-là, qui abandonnent leur famille, bah, comme si toutes ces personnes étaient responsables des maux de la France en fait. Hein, c'est quand même.
C'est tellement plus facile de montrer du doigt les victimes que le problème. Voilà.
C'est ça, mais ça a vraiment des résonances aussi avec le sujet que tu avais avant, parce que je pense que les mécanismes sont absolument les mêmes partout, vraiment, et les politicards sont à peu près les mêmes partout, finalement, dans cette utilisation de ceux qui sont toujours dans des situations encore pires. C'est eux et elles qu'on va utiliser pour essayer de unir le peuple. Enfin bref. Et puis il y a ces valses entre un service administratif et l'autre, enfin d'un service administratif à l'autre, tous ces papiers à remplir, toutes ces demandes à faire, avec toujours cette même crainte d'être débouté et renvoyé, si ce n'est dans votre pays d'origine, dans le premier pays européen où vous avez posé le pied, en fait. Et là aussi, enfin, je veux dire, c'est doux s'il n'est pas non plus resté en Italie, par exemple, c'est parce qu'il parlait le français et qu'il s'est dit « Bah tiens, je vais essayer d'aller dans un pays qui a la même langue que moi, en fait. »
La fameuse directive Dublin 3.
C'est exactement ça,
hein,
c'est ça.
Qui est une horreur absolue.
Tu fais bien de le dire, justement. Ouais. Je ne me l'étais pas noté, mais je voulais effectivement en parler. Tu fais bien. Bon. Je vais m'arrêter là quand même, parce que l'idée c'est pas de vous lire tout le livre, hein, sinon il n'y a plus d'intérêt pour vous. Mais donc juste quand même un court petit mot au niveau du graphisme. En fait, il y a des jeux de couleurs en fait, selon si c'est le passé, le présent, selon si c'est en Guinée, en Libye, selon le climat aussi, hein, qu'il y a. Alors le climat, pas les températures, le climat social.
Ouais, le ressenti, là.
Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que la Libye est toujours un peu en fond de rouge, comme ça. Mais c'est un peu le rouge de la guerre, le rouge, enfin, tout ça. Enfin, c'est vraiment. Enfin, je trouve que c'est vraiment bien foutu, quoi. Parce que oui, effectivement, le rouge domine, en fait, là où il y a le danger. Vraiment. Danger imminent, quoi, j'ai envie de dire.
Juste comme ça, il y a une réalité là-dedans. C'est vrai, en plus. Selon votre état d'esprit, vous voyez plus certaines couleurs que d'autres, et il est connu que quand vous avez peur, vous voyez plus le rouge.
Ça doit se tenir. Ouais. Et il y a des mises en images brutes, hein, directes, comme je vous le disais avant, comme ce bateau qui se retourne, ces corps qui coulent, qui sont rejetés ensuite sur la plage. Donc voilà, enfin c'est vraiment, et il y a une image aussi, c'est quand ils partent, c'est une double page. Et finalement, vous avez ce matelas pneumatique sur le haut de la page de droite, tout à gauche sur la page de gauche, pardon, et tout le reste est gris en fait. Et c'est vraiment, ça représente tellement ce bateau pneumatique dans une immensité qui, il y a rien à maîtriser quoi. Hein. Je veux dire, on donne une boussole, on allume le moteur et puis ciao les gens, vous vous débrouillez quoi. Donc c'est vraiment ça. Enfin, tu dois te sentir mais tout petit. Enfin, c'est absolument horrible. Enfin bref, vous l'aurez compris. Hein, j'ai aimé cette BD, ne serait-ce parce qu'elle donne en fait de l'individualité à ceux et celles qu'on enferme dans cette appellation de réfugiés ou encore de migrants. Hein, oui, il y a des personnes en fait, et on essaie de rappeler souvent ici, c'est que derrière toutes ces dénominations, il y a des gens en fait, il y a des personnes, il y a des individus qui ont une vie, qui ont une histoire tout à fait personnelle, qui souvent ont traversé l'enfer, mais enfin vraiment. Enfin, c'est une image, mais j'ai cette image dans la BD. C'est, il arrive au Liban, et il est prêt à s'endormir. Il se dit bienvenue en enfer, en fait. Et c'est exactement ça, en fait.
Mais juste quand même, dire, nous, s'il y a la causerie, on emploie, vous avez remarqué, souvent le mot réfugié, c'est parce que ça n'a pas la même connotation que migrant. Et parce que, bah oui, même si c'est une catégorie, comme tu dis, c'est aussi l'idée que bah, les gens cherchent un refuge et qu'on peut leur ouvrir les bras et qu'on n'est pas obligé, en fait, de toujours les voir comme des migrants, comme espèce de truc qui vous voyez, les termes sont hyper importants, on l'avait déjà dit dans l'émission, on le redit, c'est attention aux termes même que vous pouvez employer, parce que vous n'allez pas forcément le faire de façon négative, mais quand on commence à dire migrant, il y a une notion derrière qui n'est pas la même que accueillons les réfugiés. Voilà, c'est pas pareil.
Effectivement. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est effectivement, on n'est pas, enfin, les auteurs sont pas du tout dans le pathos, pas dans l'émotionnel, ils cherchent pas à tirer les larmes, non, en fait, c'est juste le réel qui est relaté, avec parfois même une forme de froideur, mais il y a parfois des situations, la survie, qui pousse en fait à devoir éviter de se laisser submerger par les émotions. Parce qu'il n'y a pas le choix, parce qu'il faut tenir en fait. Si tu te laisses écrouler, tu vas t'écrouler en fait. Donc c'est vraiment, enfin moi j'ai vraiment, je vous invite vraiment à la lire, parce que ça fait partie de ces œuvres où on donne de l'existence. Alors là c'est assez doux, mais ne serait-ce qu'au travers de la BD, il va rencontrer d'autres personnes. Et c'est des petites existences dans une BD évidemment, mais c'est absolument important qu'on arrête de déshumaniser des gens qui fuient la guerre, la misère, la haine, etc. Humanisons. Tout le monde est humain sur ce putain de caillou qui tourne si vite. Bref, pardon. Donc, je vous rappelle quand même le titre de cette BD. C'est Doux, en quête d'asile, de Xavier Bétaucourt et Virginie Vidal, aux éditions Stenkis. Et voilà, je crois que j'ai tout dit.
Et vous retrouverez tout sur le blog de Radio
Bien
Calvi,
évidemment.
De la causerie sur le blog de Radio
Calvi. Oui. Et bien, si ça vous va, on passe à la ZIC.
Oui.
Allez.
Live your new album. Say your new movie song. So you can find your future. You bet it on you. Fait a mise you pour. Fait you comprendre. J'ai des jours de mots de pica. Viens à ça, yo. Il est étonné. Histoire, yo.
Bambi.
êtes toujours à l'écoute de Radio Canu et c'est la causerie comme tous les dimanches de 22h à 23h. Et vous l'aurez peut-être reconnu, on vient de s'écouter Cassave avec le titre Doubou de Piquant. Et c'est évidemment en hommage, si on peut appeler ça comme ça, à Jacob Desvarieux qui est décédé hier ou avant-hier.
Ouais.
Et voilà, c'était...
Un grand de la musique et un des inventeurs du zouk. Et surtout l'un des plus gros vendeurs d'albums français.
Ouais.
Voilà, parce qu'on l'a un petit peu oublié, Cassav, c'était juste le groupe du français qui vend le plus quasiment au monde. Voilà.
C'est ça.
Bon, c'est pas grave, hein. C'est les îles, on s'en fout.
C'est exactement, je pense, la mentalité de tout ça.
Bah ouais, voilà.
Et ben Fab, un dernier petit sujet, je crois, sur la notion de solidarité.
Ouais, ouais, je voulais vous parler en fait, ce soir de quelque chose qu'on entend beaucoup et qui commence vraiment à me saouler. Donc j'entends beaucoup en ce moment, et surtout dans les milieux militants, la société, elle est devenue totalement égoïste et tout le monde se fiche des autres. Voilà. Puis cette affirmation, elle est martelée par bien des gens, hein, quand même, hein, globalement. Mais elle sert aussi, en fait, à mépriser l'humanité, hein, qui serait bonne à crever, vu qu'elle ne sert à rien. Hein.
C'est voilà. Ça. Bah, 7 ouais. Milliards d'humains qu'on doit se débarrasser. Quoi.
Voilà. Alors, donc, la solidarité serait morte. Vraiment ? Alors, en fait, moi, je ne crois pas. Et même, je crois qu'en fait, on refuse simplement de la voir là où elle se trouve. Donc, ce soir, j'ai un peu envie de donner quelques exemples. Alors, d'abord, je vais vous parler de certaines associations. Tout simplement. Voilà, la pauvreté, hein, dans le monde, vous savez, elle est encore très élevée, trop élevée, et bien des personnes n'ont pas le minimum pour vivre dignement. En France aussi, hein, c'est pas propre, voilà, quels que soient les pays. Les États sont largement défaillants, hein, et le capitalisme se sert des divisions pour mieux exploiter les uns et les autres. Tout ça, on le sait. Certes, moi personnellement, je pense qu'une révolution pour renverser tout ça serait urgente. Mais les révolutions, c'est un peu comme les champignons, hein. Ça n'est pas toujours quand on les attend. Donc voilà.
Oui.
Bah ouais.
Et donc, du coup, et puis une révolution ne fait, on ne sait pas ce qui sort d'une révolution non plus.
Ouais, puis voilà. Donc en plus, voilà. Donc la solidarité, hein, en fait, elle existe. Ceci dit, hein, voilà. Aujourd'hui, des milliers d'associations viennent en aide aux plus démunis, sans rien attendre en retour, en fait. Juste parce qu'il faut le faire. Alors oui, on peut souligner que certaines, notamment les religieuses en particulier, ont parfois des idées derrière la tête. Mais je rappellerai qu'elles sont globalement minoritaires dans le monde. Hein. Ceci étant posé, le fait que des humains viennent en aide à d'autres humains juste parce qu'ils trouvent la situation injuste, c'est la définition même de la solidarité. Voilà. Qui, soi-disant, aurait donc disparu, hein, de nos vies, tout ça. Enfin, de ce que j'ai entendu. Aujourd'hui, dans le monde, on estime que ces aides évitent à plus de 500 millions de personnes de sombrer totalement dans la misère. C'est pas rien, hein, 500 millions de personnes. Voilà, c'est pas mal, hein, quand même. Alors, moi, je vais continuer avec d'autres exemples. Alors, je vais vous parler aujourd'hui, là, des bénévoles qui protègent. Alors, pour cet exemple-là, je vais m'en tenir à la France. Parce que des fois, voilà, pas que je suis fan des frontières, mais c'est que c'est plus facile d'avoir les chiffres.
C'est ton côté patriote.
Ouais, totalement.
Ouais, grave.
Alors, je vais vous parler de celui de la protection, en fait, hein, de tout ça. Alors, nous sommes trop peu à le savoir, mais globalement, la protection civile en France, elle est bénévole. Ou comme on dit, volontaire. Parce que ça fait plus classe. Voilà. Alors, on va commencer par la protection civile. La protection civile, hein, vous savez, c'est ceux qui encadrent les manifs, les festivals, les fêtes de village. Enfin, tous les trucs où parce que vous avez un peu de fric et que vous avez du temps, vous pouvez aller. Voilà.
C'est une croix ou un truc comme ça, bleu-orange, non ?
C'est un triangle orange avec une croix bleue.
Ouais, c'est
voilà.
Ça.
Donc, c'est la protection civile, 32 000 bénévoles. Oui, oui, bénévoles. Donc, des gens qui ne sont pas payés pour le faire. Hein. Ils sont répartis sur 98 associations sur tout le territoire, alors France métropolitaine et Outre-mer. Et oui, notre sécurité, les premiers secours qui sauvent et souvent des vies, ce sont des bénévoles qui les assurent. Des gens qui font cela par conviction, tout simplement, parce que c'est utile et qui assurent aussi la formation de 130 000 personnes par an aux premiers secours. Voilà. Alors, la protection civile ne donne pas de chiffres du nombre d'interventions qu'ils font, tout ça, mais on peut estimer que c'est assez élevé, parce que vu les endroits où ils interviennent, notamment les festivals, pour ceux qui ont fait des festivals, on peut imaginer, hein, un petit peu le boulot que ça peut représenter. Les pompiers, ensuite, hein, qui luttent contre les feux de forêt, ils sont régulièrement volontaires ou issus... ces feux de forêt qui sont régulièrement volontaires, c'est-à-dire que 40% des feux de forêt sont d'origine volontaire, hein, je le rappelle, et ou issus de la maladresse humaine. Hein. Alors, on va être très clair, 90% des feux de forêt, c'est pas naturel. C'est-à-dire qu'il y a un humain derrière. Vous voyez, voilà, il y a un gars qui a fait un barbecue ou un truc comme ça. Voilà. Et donc, en fait, c'est des gens qui risquent leur vie, hein, pour sauver des villages, des espaces naturels, et qui peuvent passer jusqu'à 3 jours sur un feu, hein, voilà, pour éviter, hein, qu'ils ne dévastent des grandes villes, parce que des fois, ils sont aux portes de Marseille ou de villes comme ça. Bah, ces gens-là sont, dans leur ultra-majorité, volontaires et donc, d'une certaine façon, bénévoles. En fait, ils touchent une sorte d'indemnité, mais qui, franchement, quand on voit les montants, on se dit que c'est pas l'argent qui les motive, hein, pour être très clair. C'est sûr. Alors, 41 400 sapeurs-pompiers, donc 41 400 sapeurs-pompiers, ça c'est le nombre de pompiers qu'on a en France. 16% de ces pompiers sont donc des pompiers pro. 5% sont des militaires.
Ok.
D'accord. Alors, pardon, 41 400 pompiers, je la reproche, je me suis mélangé dans mes chiffres.
Alors, attendez.
On dirait un mec bourré qui donne des chiffres.
Donc,
il y a 41
000. Ça fait c'est 400.
Arrête
c'est
de
dire. C'est des Krasuki, voilà.
Ah, il va me comparer à Krasuki. Bah, c'est en ancien pompier, mon nouveau pompier. Alors, je reprends. Donc, il y a 41 400 sapeurs-pompiers, soit 16% des effectifs, c'est des pompiers professionnels. Ouais. 41 400. 12 800, ce sont des militaires, ils représentent 5% des effectifs des pompiers. J'ai inversé mes chiffres. Ouais. Et 198 900, ce sont des pompiers volontaires, soit 79% des pompiers qui interviennent. Oui, les gens sont majoritairement des pompiers volontaires. Et alors, juste quand même pour vous rendre compte, hein, les pompiers, c'est 316 100 incendies en 2020. Voilà. C'est 4 095 000 secours d'urgence aux personnes. 4 095 000 secours d'urgence aux personnes en 2020, dont 293 700 accidents de la route. Voilà. C'est 69 900 risques technologiques. Ça calme, hein.
Technologique.
Oui, c'est-à-dire, vous savez, quand il y a un feu dans une usine...
Ah oui, oui, genre data center ou des choses
comme ça. Ouais, genre un data center, genre Faisin, tout ça, vous voyez.
Ah oui, aussi,
tout autre truc sympa. C'est 348 000 opérations diverses, c'est-à-dire enlever des nids de frelons asiatiques, aller récupérer un chat sur un toit, voilà. Mais ça peut paraître bête, mais en fait, ils interviennent aussi pour ça. Des animaux aussi qui tombent, dans, vous savez, dans des puits, des choses comme ça. Oui. Donc, en fait, ça fait 13 205 interventions par jour, hein, soit une intervention toutes les 6,5 secondes. Voilà. Et ben attendez, hein, parce que j'ai pas terminé, hein, quand même, parce que je voulais pas. Mais juste quand même, vous rendez compte que tout ça, c'est fait par des gens qui le font volontairement. C'est-à-dire qu'ils ont dit, tiens, je vais consacrer une partie de ma vie à aller sauver d'autres gens. Voilà. Alors, attendez, puisque oui, donc je n'ai pas fini. Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances sur les côtes françaises. Oui, oui. Sachez que ceux qui assurent votre sécurité, bah, c'est la SNSM, Société Nationale des Sauveteurs en Mer. Enfin, c'est surtout l'association, hein, des sauveteurs en mer, pour être précis. Les chiffres, ils parlent d'eux-mêmes. Hein. Il y a 9030 bénévoles pour 89 salariés. Je leur fais 9030 bénévoles pour 89 salariés. C'est-à-dire qu'il y a 9030 personnes qui prennent sur leur temps et parfois même sur leur temps de vacances pour surveiller, sauver, aider les autres. Et pour 2020, hein, et c'était une toute petite année pour la SNSM, parce que 2020, je vous rappelle qu'il y a eu quelques confinements, c'est 28 772 personnes prises en charge. 28 772. 10 924 personnes secourues, 16 611 personnes soignées, et 1237 enfants égarés et retrouvés. Ouais, c'est pas mal, hein, quand même. Hein. Et tout ça par des bénévoles. Voilà, en fait, moi, je voulais juste parler, hein, de ces héroïnes et de ces héros ordinaires, ces gens qui donnent de leur temps pour assurer notre sécurité, par pure vision, finalement, altruiste de la société, par solidarité avec leurs semblables. Vous savez, dans ce monde où la solidarité aurait disparu, ben, en fait, pas tant que ça. Et finalement, quand quelqu'un vous dit que la société, elle est devenue égoïste et qu'elle est fermée sur elle-même et que les gens, ils sont égoïstes par nature, etc., etc., dites-vous simplement qu'en fait, votre interlocuteur, il est en train de parler de lui et de sa vision du monde, et de sa façon à lui qu'il a d'appréhender le monde, plus que de ce qu'est le monde réellement. Parce que oui, il y a des humains égoïstes, puis oui, il y en a d'autres qui, en fait, eh ben, ne le sont pas du tout. Donc non, la société, c'est ce truc-là, le peuple, la société, ça n'existe pas. Voilà. Mais donc, là où certains développent de la misanthropie et de la haine des autres, eh ben, d'autres mettent en avant l'altruisme, l'entraide, l'empathie, et ça, c'est plutôt positif. Et moi, je voulais juste dire qu'on peut les remercier de le faire et que personnellement, ça me laisse beaucoup d'espoir pour l'avenir. Voilà.
On peut voir ça comme ça. Non mais oui, enfin et puis il y a plein de gens dans plein de trucs. Enfin nous.
Oui,
on,
j'ai pris quelques exemples. Il y en a plein.
Plusieurs fois qu'on parle des squats, le chemineur, etc.
Exactement.
C'est des bénévoles qui font ce qu'ils peuvent, comme ils peuvent, et rien n'est parfait. Il s'agit pas de. Mais c'est juste, en fait, c'est plein de gens dans les milieux militants. On aime avoir nos articles sur ceux du passé qui ont fait des trucs. C'est des grands gens. C'est... Ouais, en fait, je pense foncièrement que majoritairement, plein de gens qui font, n'entendra jamais parler. Ils mourront paisiblement parce que c'était leur vie. Et voilà. Et ils auront pas d'article sur Rébellion. Ils auront pas d'article sur le métron des anarchistes, et, etc. Mais je pense que oui, en fait, c'est pas parce qu'ils ont pas leur ligne dans des sites et dans des pages de médias alternaux, rebelles et anars, qui n'existe pas en fait. Et j'ai presque l'impression qu'il vaut mieux pas être dans tous ces articles et dans tous ces sites.
C'est pas toujours vrai.
C'est que finalement, t'as fait pas mal de choses et qu'on n'a juste pas entendu parler de toi et que c'est pas plus mal en fait. Ouais. Mais t'as fait. Enfin bref.
Voilà. Mais en tout cas, moi je trouve que c'est rassurant de voir qu'il y a autant de gens qui finalement ont vraiment l'envie d'être au service des autres, comme on dit, mais dans le bon sens du terme, et qu'ils le font souvent avec une certaine candeur, mais le mot n'est pas négatif, oui. C'est-à-dire qu'ils le font parce qu'ils croient en ce qu'ils font, et c'est beau de croire en ce qu'on fait,
carrément.
Tout simplement. Voilà.
Eh bien, allez.
Yes, musique.
Musique.
Hey, baby, what you gonna do?
Et vous êtes de retour dans la causerie au 102.2 ou sur radiocanu.org. Et oui, on n'aimerait pas faire ça trop souvent, mais deuxième hommage ce soir avec les ZZ Top et Dirty Dog, parce que c'est, vous savez que Dusty Hill, qui était le bassiste des ZZ Top, est décédé. Et oui, on en a marre qu'il meure, mais bon, c'est aussi la vie. Mais du coup, on avait envie de passer un petit peu de leur musique pour que vous vous souveniez de ce que c'était que cette musique de sauvage qu'est le rock'n'roll. Voilà. Et donc, c'est on a terminé.
Mais oui, moi j'avais juste une question.
Ouais.
Clara, pour la reprise, ça va? Tu te sens bien?
Oui, ça va.
Ben voilà, c'est tout.
Il n'y a pas eu d'erreur de technique, non?
Donc, c'est comme
ça.
C'est comme ça que les gens savent qu'elle est là. Ah, tiens, ce soir, il y a Clara.
Il n'y a pas d'écho.
C'est ça. Et c'est du bon côté, il n'y a pas que du côté droit à un moment donné. Tout ça. Donc, voilà,
ça va, elle fait que ça aussi. Hein.
C'est pas vrai, parce que Clara, elle nous aide beaucoup à la construction des émissions.
Et non, ça, mais
c'est...
ça va, moi aussi, toi aussi, c'est bon, quoi. Oh, ça va, c'était juste l'esprit taquin pour cette reprise de Clara.
Ouais.
Je crois qu'on arrive à la fin.
Juste moi à vous appeler toutes et tous si vous pouvez à aller signer les pétitions qu'il y a sur la levée des brevets sur les vaccins. Alors c'est que des pétitions, mais c'est bien d'aller gueuler dans la rue. J'ai rien contre ça. Il y a pas de souci. Et peut-être qu'aussi il faudrait gueuler pour qu'on lève les brevets.
Oui, c'est ça. Ça peut faire partie des
ça peut faire partie des revendications parce que il y a aujourd'hui des tas d'endroits dans le monde où on adorerait avoir un vaccin et où les gens tombent malheureusement un peu trop vite.
Oui.
Et c'est juste fou, quoi.
Et puis voilà. Ça changera de contre Macron et son monde. Ouais. Ou déjà c'est
donc
c'est
pour des vaccins pour tout le
c'est
monde.
C'est croire que changer de maître vous changera la vie. Oui, c'est être tiens pour en fait, ouais. C'est solidarité internationale, tout ça, tout ça. Enfin bon, c'est des vilains mots quoi. Quand on se promène avec tant de drapeaux bleu, blanc, rouge. Enfin bref. Voilà, on se quitte là, n'est-ce pas? On vous donne rendez-vous la semaine prochaine, comme tous les dimanches de 22h à 23h sur l'antenne de Radio Canu.
Ouais.
Et on va se quitter.
Toutes les 3 secondes. Mike. Okay. Je sais pas pourquoi j'avais fait pour tuer
Zora. Je fais ça.
C'est l'été.
Alors, juste, on va se quitter avec un peu de douceur. On va se quitter avec un titre de Rai X et Olafur. Arnolds. Ouais. Pardon. Et encore là, on vous le dit l'anglais franco, quoi. Mais parce que normalement, c'est de l'islandais au départ. Et le titre, c'est Oceans. Ouais. Et vous verrez, c'est très joli. Et je vous invite vivement à découvrir ces artistes.
Et a priori, aucun des deux n'est mort.
Non, du tout. Hein,
c'est vraiment... pas un hommage.
Non, c'est juste pour le kiff, quoi.
C'est un hommage à la beauté de cette musique.
D'accord.
Voilà, c'est ça. Qui n'est pas mort, d'ailleurs. On a eu des nouvelles de la musique. Elle nous a appelé.
Comme le rock'n'roll. Il mourra jamais. Bon, il est temps de
allez, on y va.
On vous souhaite une bonne semaine à venir. On vous donne rendez-vous évidemment dimanche prochain, ouais. 22-23 sur l'antenne de Canu. N'hésitez pas à continuer d'écouter Radio Canu, même s'il y a beaucoup moins d'émissions en direct, il y en a encore. Et puis sinon, vous avez toujours. C'est merveilleux, ce que dis-je, formidable. Bande continue faite par les animateurs et animatrices de Radio Canu depuis les années 90. Donc, c'est une. C'est une mine à trésor complètement dingue et vraiment écoutée et kiffée parce que.
Et à chansons improbables aussi.
C'est ça, voilà. C'est aussi ça. Radio Canu, elle est autogérée et c'est aussi ces sons-là qu'on n'entend pas forcément ailleurs.
Radio Canu, Radio Rebelle.
Non,
on peut y aller?
Oui, on va y aller.
Okay.
Je vais mettre un petit jingle.
Des bisous et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao.
Allez, des bisous.
Ciao,
salut.
Ciao.
Il semblerait que... Ah ben voilà.
Vous m'avez troublé.
La technique merveille, ça repart. Allez, ciao.
Salut. Salut.